Madame Julien, aujourd'hui, nous entrons dans le 18e siècle. Quelle musique illustrera cette émission?
Il sera beaucoup question aujourd'hui de Monsieur l'Intendant, qui depuis Montauban et au nom du roi règle la vie de notre cité. Alors, pour plaire à Monsieur l'Intendant, j'ai choisi de la musique italienne du XVIIIe siècle, brillante et colorée. Plus précisément, des extraits de trois concertos pour hautbois d'Albignoni, Tommaso Albignoni. D'abord, le premier mouvement du concerto en ré majeur, puis le premier mouvement du concerto en si bémol majeur, tous deux pleins de brio et d'enjouement. Et pour terminer, le troisième mouvement du concerto en sol mineur, ce dernier tout de grâce aimable pour charmer Monsieur l'Intendant.
Monsieur Julien, le 17e siècle est terminé. Un siècle a suffi pour bouleverser complètement l'administration saint-antoninoise et certainement toute la société française.
Oui. Quand le 18e siècle s'ouvre, c'est le règne finissant de Louis XIV, le roi soleil, le monarque absolu de droit divin, dont les historiens ont chanté la gloire et la puissance. Ce roi qui, disent-ils, a fait de la France la première nation d'Europe, sinon du monde, qui a soumis à sa volonté et à son bon plaisir tous ses sujets par le centralisme administratif, et qui a soumis aussi les grandes nations d'Europe par ses guerres impérialistes. C'est sous Louis XIV que s'est affirmé en effet le centralisme administratif que l'on attribue injustement, à mon sens, aux Jacobins de la Révolution. Sous Louis XIV, rien ne se décide, rien ne se fait alors au niveau local que de la volonté ou avec l'agrément du pouvoir central. Ce pouvoir central qui, par le truchement du tout-puissant intendant dont nous parlons beaucoup, pèse de tout son poids sur l'administration communale. Louis XIV, on peut dire, a mis fin à tout ce qui pouvait encore subsister des libertés communales. Les administrateurs locaux, les consuls, les officiers de ville, les officiers de justice ne sont plus que de serviles exécutants, entièrement soumis aux ordres et aux caprices d'un pouvoir dont ils sont d'ailleurs les créatures. L'élection consulaire elle-même, symbole premier et séculaire de la démocratie communale, n'est plus qu'une dérisoire parodie. Les procès-verbaux des délibérations consulaires en apportent surabondamment la preuve. Tenez, comme ce compte rendu de la mutation consulaire, c'est-à-dire du renouvellement des consuls, de l'année 1708, que j'ai extrait de nos archives et qui occupe, tenez-vous bien, 23 pages du registre des délibérations consulaires. 23 pages pour décrire la cérémonie, qui n'est, comme je l'ai dit, qu'une parodie. Nous sommes donc le deuxième jour de septembre, jour de dimanche et fête de Saint-Antonin. Eh oui, c'est désormais en septembre que, depuis l'ordonnance de l'intendant de 1681, on procède à la mutation consulaire, contrairement à la très ancienne coutume de la ville, qui voulait que cette mutation eût lieu à la Toussaint. On se souvient que l'intendant avait déjà, antérieurement, en 1681, choisi le 1er janvier, puis, sans doute, sur les instances du clergé, il avait choisi cette date du premier dimanche de septembre, qui coïncide, nous le savons, avec la fête de Saint-Antonin le martyr. Cela me paraît un signe éclatant, évident, de la puissance catholique retrouvée dans notre ville à ce moment-là.
Thank you.
Donc, en cette fin d'après-midi de dimanche de septembre, on trouve assemblés dans la grande salle de l'hôtel de ville, le musée actuel, ne l'oublions pas, le conseil général de la communauté, qui a été convoqué au son de la cloche et au son de la trompette, suivant la coutume. Il y a là les quatre consuls en place, revêtus de leurs robes, dont deux seulement doivent être remplacés, en effet, par décision de l'intendant, depuis des années déjà, le consulat n'est remplacé chaque année que par moitié. Ces deux-là, ce sont noble Antoine de Calmeil, sieur de La Roque. Quel La Roque? Je ne le sais pas. Peut-être La Roque là-bas, dans la vallée de la Vère. Il est maire et consul. Rappelons-nous aussi que l'office de maire a été créé en 1692 par Louis XIV. Il y a noble Marc-Antoine de Maffre, sieur du Cruzel. Il y a là sieur Pierre Cassin Orfèvre et sieur Jean Garde, chirurgien. Observez que parmi eux, il n'y a aucun marchand, aucun artisan et bien entendu, aucun paysan. Ne parlons pas des brassiers. Il y a aussi Isaac Para, médecin, procureur syndic, c'est-à-dire porte-parole de la communauté, en principe. Il y a enfin Jean-Philippe Dupin, le juge royal, et les 24 conseillers de ville, parmi lesquels le prieur mage, le curé, le vicaire, des avocats, des hommes de loi, des bourgeois, des médecins, des chirurgiens, mais pas un marchand, ni un artisan, ni un paysan, ni un brassier. C'est la bonne société, quoi, on est entre nous. Et l'administration de la ville, nous le voyons, est passée entre les mains d'une oligarchie de privilégiés. Le maire annonce qu'on va procéder à l'élection consulaire et, dit-il sans rire, suivant et conformément le règlement de 1681, et suivant les us et coutumes de cette ville. Aussitôt, le syndic Para intervient et il déclare qu'il a eu avis que les consuls ont reçu des lettres de l'intendant au sujet de l'élection consulaire et il requiert le maire d'en faire donner lecture. Voyez le cinéma. Il s'avère que le maire, effectivement, a reçu et a entre les mains trois lettres, pas moins, qu'il donne à lire au secrétaire de séance, secrétaire des consuls, Pierre Delpech. Tout cela, vous voyez, très cérémonieusement. Bien entendu, tout le monde est au courant du contenu des lettres, mais on fait comme si. Dans sa première lettre du 13 août, Monseigneur l'intendant, écartant les deux candidats Para et Perret, qui lui avait été proposé auparavant par les consuls, vous voyez que tout est préparé, répond, et je cite, qu'il ne connaît ni l'un ni l'autre, mais qu'il croit ne pouvoir mieux faire que de vous prier de proposer à la communauté le sieur Brugière, médecin du prince de Condé, et le sieur Para au choix, pour le remplacement du sieur Larocque.
Oui, comment ça se fait, M. Julien? Parce que l'intendant avait écarté Para, vous nous disiez.
Oui.
Et maintenant, il repropose Para.
Et oui, mais tu vois bien qu'il propose Brugière. Et il dit Para aussi, parce que le candidat des consuls, mais il n'en veut pas trop. Et il leur dit bien au choix. Mais quand l'intendant vous dit, entre ces deux, je propose le premier Brugière et puis Para. On ne résiste pas. On sait très bien que les consuls vont suivre l'intendant. Le choix. Quel choix. À ce propos, je signale une chose. C'est que le Brugière médecin. Alors, c'est pourquoi je parle de comédie. 4 ans auparavant, ce Brugière médecin avait été proposé et élu consul par l'élection consulaire, n'est-ce pas? Et c'était en 1704. Et cette élection consulaire avait été annulée par l'intendant sous prétexte que le nommé Brugière était un mauvais catholique. C'est un nouveau converti, un ancien protestant, parce qu'il ne fait pas ses Pâques, ni sa femme non plus, et que sa belle-sœur ne va pas à la messe. Alors sans doute, le sieur Brugière a dû bien arranger son comportement, puisqu'il est maintenant, il est le chouchou de Monseigneur l'intendant. Il faut dire qu'il a réussi à se faire nommer médecin du prince de Condé aussi. Hein ? Alors il y a des appuis qui sont puissants. Voilà pour la première lettre. Dans sa seconde lettre du 30 août, Monseigneur l'intendant propose, lui, le sieur Pécholier pour remplacer le deuxième consul Cassin qui sort de charge. Alors, ce sieur Pécholier, dit-il, lui a été particulièrement recommandé par des personnes de considération, on ne sait pas lesquelles. À qui je souhaiterais, dit Monseigneur l'intendant, je souhaiterais fort de faire plaisir. Et il ajoute que le sieur Pécholier est bon catholique, comme il m'a paru dans un certificat de son confesseur. Pécholier aussi est un nouveau converti. Alors, pour se faire bien voir, il faut qu'il produise un certificat de catholicité. Il a dû aller porter quelque chose au prieur mage qui lui a fait un certificat attestant qu'il avait fait ses Pâques. On voit là l'intervention du clergé dans la gestion communale. Enfin, dans sa troisième lettre, elle, du 1er septembre, vous voyez, 13 août, 30 août, tous les 15 jours, et enfin celle-là, 1er septembre, ça presse. L'intendant, ayant appris que son protégé para, enfin son protégé, celui qu'il proposait au choix, est neveu ou proche parent du second consul en place, ce qui est interdit par le règlement, il prie les consuls d'oublier ce que je vous en ai parlé. Il faut le réserver pour une autre fois. Alors, à la lecture de cette lettre, le syndic Para, grand seigneur, déclare qu'il s'abstient de la proposition de la charge de consul et il requiert l'Assemblée de délibérer ce qu'il y a à faire pour, dit-il, la satisfaction de Monseigneur l'intendant. Alors on peut lire dans le registre. Sur quoi perquise les opinions de tous les susdits délibérants l'un après l'autre ? Il a été dit et conclu d'une commune voix qu'il est de l'intérêt de la communauté de recevoir les prières de Monseigneur l'intendant comme des ordres auxquels tous les habitants seront toujours prêts d'obéir avec soumission et respect. Quelle flagornerie, n'est-ce pas ? Quelle veulerie ! Mais une difficulté apparaît aussitôt. Les favoris de l'intendant, qui sont, si je ne suis pas trop confus, Brugière, Don et Pécholier, se trouvent être oncle et neveu. Et se trouvent proches parents aussi du sieur Delaroque qui sort de charge. Et cela est contraire au règlement de 1681. Alors que faire ? Va-t-on passer outre ? On remarque en plus que les sieurs Brugière et Pécholier ne sont pas du gré du public. Ah ah ! Voilà, ça gêne un peu l'Assemblée. Ce Brugière, ce favori de l'intendant, quand on dit au gré du public, n'exagérons pas, au gré des gens qui sont dans la salle. Ce Brugière, vous comprenez, il a dû susciter des jalousies. Et j'ai dit tout à l'heure qu'on l'avait déjà, l'intendant l'avait déjà écarté du consulat. Et on ne comprend pas trop bien pourquoi maintenant l'intendant le repropose. Alors, qu'est-ce qu'on décide ? On a le droit pour soi, on pourrait écarter Brugière et Pécholier puisqu'ils sont parents entre eux et parents de quelqu'un qui sort de chat. Non, on décide de ne rien décider et de sursoir à la mutation consulaire. Et alors, le prieur mage et le juge, grand personnage dans la cité, sont mandatés par l'Assemblée unanime pour aller, je cite, « représenter très humblement à Monseigneur l'intendant les raisons d'exclusion contre les sieurs Brugière et Pécholier ». Et la séance est levée. On n'a élu personne. On le fera une prochaine fois. Et la nuit étant tombée, parce que puisqu'il y en a 23 pages, c'est quand même, on a dû dire quelque chose, toute l'Assemblée s'achemine vers l'auberge Cassin. L'auberge Cassin, je vous le précise, c'est la maison qu'habite actuellement Madame et Monsieur Bessières, rue des Carmes, et qui conserve toujours son enseigne du XVIIIe siècle, là-bas, du côté des Carmes. Hein. Alors, on s'achemine vers l'auberge Cassin pour y prendre le traditionnel repas consulaire, bien qu'on n'ait pas élu les nouveaux consuls. On comptera à ce repas plus de 70 convives, et ce repas coûtera 60 livres à la communauté.
Oui, ce repas coûtera 60 livres à la communauté. Il semble que les frais des consuls soient davantage pris en charge par la communauté maintenant.
Ah ben tout à fait. D'abord, on prévoyait tous les ans dans le budget le repas consulaire. Le maximum à ne pas dépasser, c'était 30 livres. Vous voyez, avec la désinvolture, cette année, on a doublé la somme, 60 livres. Il faudra une délibération spéciale du conseil de ville pour approuver cette dépense, hein, parce qu'on dépasse largement le crédit. Et de toute manière, oui, je le dirai en d'autres occasions, il est manifeste que les consuls font supporter à la communauté des charges qu'eux-mêmes supportaient autrefois au moment de la belle démocratie municipale des 12e, 13e siècle et même du 16e siècle. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais c'est ainsi par exemple que ils se font payer une indemnité annuelle de 51 livres et 4 sous qui était en principe destinée, suivant la tradition, à leur payer la robe consulaire. La robe consulaire était une robe de drap. C'était un vêtement de qualité qui coûtait cher. Hein. Mais depuis des années, là, depuis 1660, eh bien, la robe consulaire, elle est payée par la communauté. En principe, elle doit durer 4 ans. Ce qui arrive quelquefois que même 5 ans, 6 ans, elles sont déchirées, elles sont minables. Mais les 51 livres, les consuls maintenant les mettent dans leur poche. Et pourtant, ce sont des gens riches. Et je ne parle pas d'autre argent qu'ils mettent dans leur poche. J'aurai l'occasion d'en parler. Notamment les droits sur les vins étrangers. Le surlendemain, le prieur Mage Arnaud et le juge Philippi sont revenus de Montauban. Ils étaient partis le lundi matin de bonne heure, avec des chevaux et des valets qui les accompagnaient. Et à cette époque-là, on n'allait pas à Montauban comme ça, en la journée. Ils sont revenus le lendemain, dans l'après-midi du mardi. On les attend, et immédiatement la cloche sonne, la trompette sonne aussi au carrefour, et on assemble un nouveau conseil. Le premier consul, maire, fait d'abord approuver, c'est ce qui presse le plus. On ne s'inquiète pas des nouvelles que rapportent le juge et le prieur. On fait d'abord approuver les dépenses du repas consulaire. Ils sont inquiets quand même, parce qu'il n'y avait que 30 livres, il en a dépensé 60. Puis il fait approuver la dépense pour le voyage des deux députés à Montauban. Et enfin, on procède à la lecture de la 4e lettre de Monseigneur que ces messieurs viennent de déposer sur le bureau, dirions-nous. Alors le maire la remet au secrétaire qui la lit. Et elle est de la teneur suivante. Je vous suis très obligé, messieurs, de la déférence que vous aviez bien voulu avoir à ma prière. Et reçois en très bonne part la députation que vous m'avez faite de deux personnes qui me sont tout à fait agréables. quelque bien que l'on m'ait dit du sieur Parat, il n'y a pas moyen de le mettre au premier rang puisqu'il est parrain du second consul. Il faut le remettre à une autre année. Et je ne l'oublierai pas. Quand je serai persuadé de la catholicité du sieur Pécholier, nous penserons particulièrement à lui. Ainsi, ne pouvant rien faire de mieux présentement pour le bien de la communauté que de mettre en place le sieur Brugière, je vous prie de vouloir le proposer à vos habitants de ma part. Je suis, messieurs, entièrement à vous, signé Le Gendre. N'est-ce pas beau ça, hein, ce style-là, 18e et 17e et 18e. Et aussitôt, l'Assemblée a délibéré d'une commune voix qu'elle nomme et élit pour consul, savez-vous qui ? Maître Pierre Brugière, conseiller du roi, médecin de Monseigneur le prince de Condé, pour servir l'année prochaine au second rang et la suivante au premier rang. Curieuse élection, puisqu'elle n'a pas eu lieu l'élection. C'est tout. On n'a pas fait la cérémonie habituelle du scrutin, rien du tout. Monseigneur l'intendant propose Brugière, tout le monde d'accord, et on énumère que tout le monde est bien d'accord. Ah, mais il reste à pourvoir le second poste, il y en a un autre vacant, pour lequel finalement il n'y a pas de candidat officiel. Eh bien, suivant la coutume, Cassin, consul sortant, accompagné des autres consuls et des 8 prud'hommes qui avaient déjà été nommés, entre dans la salle de la Tournelle. Tout le monde s'installe, on s'assied sur ces bandes de pierre que vous pouvez voir encore si vous visitez le musée, et le nommé Cassin rédige son cartel, c'est-à-dire son petit carton, sur lequel il inscrit 3 noms. Et quand il a fait sa première liste de 3 noms, on l'invite à sortir et à quitter la salle de la Tournelle. On examine la liste des 3 noms. Elle n'est pas admissible, décide-t-on. Les candidats proposés ne sont pas acceptables. On rappelle Cassin. Il rentre dans la salle. On l'invite à faire un deuxième cartel. Il en fait un deuxième. Je ne vous donne pas les noms, on n'en finirait plus. Il ressort. Et on délibère. La liste n'est pas déclarée admissible. Enfin, on le rappelle une troisième fois et on l'adjure de faire une proposition convenable. Finalement, il comprend qu'il va falloir proposer celui que l'on voulait, quoi. C'est-à-dire Perret, vous vous rappelez. Alors, il propose Perret, qui était le candidat des consuls, et Perret est élu consul. Voilà, tout s'est bien arrangé. Voilà à quoi passaient leur temps les notables Saint-Antoninois de cette époque. Uniquement soucieux de faire leur cour à l'intendant, dont ils l'avouent eux-mêmes, les désirs sans désordre.
On est bien loin, monsieur Julien, de l'époque où vous nous expliquiez que la direction de la ville par les consuls, même s'ils n'étaient pas élus au suffrage universel, était quand même très démocratique.
Elle était démocratique parce que toutes les délibérations que l'on peut lire, au XVIe siècle notamment, montrent d'abord un grand concours de peuple. J'avais dit dans une précédente émission que, parce qu'on les avait nommés les gens, il y avait environ 150 personnes dans l'Assemblée. Ce que l'on remarque, à l'époque où nous sommes, en cette fin de règne Louis XIV, c'est qu'il y a tout simplement les 4 consuls, les officiers de ville et les 24 conseillers qui ne sont pas toujours tous présents d'ailleurs. Et alors, malicieusement, le secrétaire ajoute « et autres habitants ». Mais il précise jamais qui. Hein, ce qui veut dire que c'était des assemblées très restreintes. Bon, donc la démocratie n'existe vraiment plus du tout. C'est une coterie qui fait en sorte que tous les consuls, les responsables locaux soient choisis dans son sein. On s'arrange comme on peut, en évitant autant que possible de mécontenter l'intendant. Mais de démocratie, comme je l'avais dit au début, c'est une véritable parodie de démocratie. Ce n'est pas la démocratie, ça.
Est-ce qu'il y a des exemples où les consuls ont désobéi à l'intendant ?
Désobéi pendant le règne de Louis XIV ? Jamais. Ils n'ont jamais désobéi à l'intendant, et chaque fois que l'intendant, pour une cause ou pour une autre, décide de proposer telle ou telle chose, tel nom, tel personnage à tel poste, on a immédiatement, sous Louis XIV, oui, nous verrons. Justement, c'est ce qui me frappe beaucoup. Ça, c'était l'intendant Legendre. Viendra plus tard un intendant appelé Monsieur de Laugeois. Nous serons alors sous le règne de Louis XV. La première désobéissance à un ordre de l'intendant se produira sous Louis XV, jamais sous Louis XIV. Et le changement est considérable.
On comprend que la majorité des Saint-Antoninois, très appauvris, ne puissent se faire autre chose qu'accepter ces abus. Mais il y a à Saint-Antonin de riches marchands, de riches artisans, de riches paysans, et eux aussi sont écartés.
Ils sont écartés.
Comment réagissent-ils ?
Ils réagissent certainement, parce que bien que les actes officiels qui figurent dans les registres de libération des consuls n'en fassent pas mention de cette résistance, cette protestation contre ce népotisme, de cette espèce d'indignation qui doit saisir quand même les gens honnêtes de Saint-Antonin devant cette veulerie, il y a à un moment donné, c'est dans l'élection de 1709, si je ne m'abuse, mais je n'ai pas le texte là-dessous, cette phrase significative qui figure dans le procès-verbal de la mutation consulaire. Il y est dit que certains malintentionnés font des brigues, des intrigues et des cabales pour se faire nommer consul. Cela veut dire que cette mauvaise administration est profondément ressentie par, justement, les gens les plus en vue de la ville, qui sont, presque tous, des nouveaux convertis d'anciens protestants, et qui, de ce fait, n'ont pas droit à être consuls, soit parce qu'ils ne font pas leurs exercices de religion convenablement, soit que parce qu'ils ont donné lieu à un reproche quelconque. Mais on sent bien qu'ils essaient d'intervenir. Ils interviennent par le moyen de conseillers politiques qui leur savent favorables, ou par le moyen de certains consuls à qui ils demandent de proposer un tel et un tel. Mais il y a quelqu'un qui veille là-dedans. C'est évidemment le prieur mage qui, dès qu'il a bruit de ses desseins, informe vite l'intendant pour que l'intendant fasse ses propositions. Et devant l'intendant, le tout-puissant qui dispose de l'armée et de la police, tout le monde se tait.
Vous nous avez souvent montré l'importance des consuls dans la gestion de Saint-Antonin. Maintenant, c'est la haute société qui est au pouvoir. Alors, comment gère-t-elle la ville ?
Elle la gère mal. Et là, je ne voudrais pas que l'on me taxe de partialité. Là, je ne suis pas partial. Consultez vous-même les registres de libération des consuls. Vous verrez que c'est vraiment navrant de voir que, pendant toute cette période-là, de soumission totale aux ordres du roi et de petite gestion en petit comité, on ne se préoccupe jamais de la vie de la communauté. Nous le verrons en des occasions terribles, comme par exemple cet hiver de 1708-1709. C'est l'intendant qui devrait donner l'ordre au consul de s'occuper des pauvres. Je vous demande un peu. Bon, on ne s'occupe pas, on s'occupe simplement de faire lever les tailles, parce que ça, c'est un ordre de l'intendant, et en s'arrangeant pour que les amis, les petits amis, ne soient pas trop imposés, au point qu'on interviendra sous la régence de Philippe d'Orléans pour dénoncer les consuls qui se livrent à du favoritisme, et les menacer justement pour cette incompétence et en même temps cette lâcheté qui consiste à favoriser ses amis. C'est après 1715, après la mort de Louis XIV, que l'on retrouvera dans les registres de délibération du Conseil de ville une préoccupation pour les affaires de la communauté. Il faudrait pouvoir lire, par exemple, une délibération intervenue en 1718, tout à fait sous Louis XV, vous le voyez, qui, elle, contient plus de 20 pages. Mais c'est pas pour s'occuper de la nomination d'un consul, là. Tout y passe, et les chemins en mauvais état, et le pont qu'il faut réparer, et les fours qu'il faut réparer, et on s'occupe aussi des pauvres. Là, on sent qu'une... Là, on gère. Tandis que là, sous Louis XIV, on gère rien du tout. Et je suis sûr que ça a été une désolation totale dans la ville à ce moment-là.
Thank you.
Les désirs de Monseigneur l'intendant sont désordre. Aussi s'empresse-t-on quand Monseigneur a besoin de buis pour son jardin à la française à Montauban, d'en faire arracher par les paysans de brousse et de lui en livrer 2 voitures. Cela coûtera 6 livres et l'opération se répétera 3 fois. Peut-être il y a encore à Montauban du buis qui provient des travers de brousse. A-t-il besoin de carpes, d'anguilles, de truffes, sèches ou vertes? Oh, qu'à cela ne tienne, aussitôt, on se procure les plus belles pièces qu'on lui envoie en présent aux frais de la communauté par porteur spécial. Daigne-t-il visiter notre ville, Monseigneur l'intendant? Aussitôt, tous les notables se rendent en grand habit et à cheval jusqu'aux limites de la juridiction, à Aliguière s'ils viennent de Montauban, au Barry s'ils viennent de Villefranche, ou après Salette, si venant de Villefranche il est passé par Najac et Millars. Et tout le monde fait la référence, et l'on fait escorte à Monseigneur, et on accompagne Monseigneur, on accompagne sa grandeur, jusqu'au logis de Monsieur le prieur mage, qui à cette époque-là était rue Cahissac. On est trop honoré que sa grandeur daigne se faire héberger ici, et qu'il daigne se faire nourrir aux frais de la communauté. On est trop honoré que Monseigneur l'intendant daigne venir désormais tous les ans, lui et ses successeurs d'ailleurs, faire son séjour annuel pour prendre les eaux de Salette, dont dès 1710 on a refait le captage.
Oui, pourquoi a-t-on refait le captage de la source Salette?
Oui, la source Salette qui était connue depuis toujours, et même certainement d'après à l'époque gallo-romaine, avait une grande faveur auprès de la population saint-antoninoise, et des inondations importantes avaient entraîné, poussées par l'Aveyron, avaient entraîné beaucoup de limons et d'alluvions qui avaient recouvert la source elle-même. Vous savez que la source Salette, elle émerge au niveau de la rivière, elle n'est pas au-dessus, elle est au niveau. Alors, elle est facilement recouverte, il suffit de la voir actuellement. Et là, en 1710, à la demande de la population d'ailleurs, on avait fait refaire ce captage, et on avait fait placer à l'endroit de l'émergence de la source, une cuve de pierre. Je précise en passant que la population ne s'était pas satisfaite de ce travail et qu'elle a exigé pendant longtemps que l'on retrouve les eaux de Peyrègue. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Il semble donc que dans la mémoire des habitants de Saint-Antonin, et le texte le dit lui-même, les eaux de Peyrègue avaient plus de vertu que les eaux de Salée. Où se trouvaient ces eaux de Peyrègue? La source est perdue, mais je pense qu'elle devait se trouver, cette source, à l'emplacement de l'ancienne église de Peyrègue, que beaucoup de gens ignorent, bien sûr, mais qui est une ruine enfouie dans les bois, là, au-dessous de Peyrols, là, dans cette gorge. Et cette église, vraisemblablement, avait été construite au premier temps du christianisme sur l'emplacement d'une source qui avait été reconnue par ses vertus et qui est peut-être une source sainte, si on peut dire, une sorte de lieu saint. Voilà, mais ça, c'est une parenthèse.
Oui. Et est-ce que, à cette époque-là, la ville de Saint-Antonin retirait des avantages de la source de Salette?
Pas au sens où nous l'entendrions aujourd'hui, pas au sens économique, hein, comme nous l'entendons aujourd'hui. Mais elle en retirait des avantages indirects à partir du moment où l'intendant est venu ici. Sans doute, quand il faisait sa cure, Monseigneur et sa femme et sa suite, son hoqueton, son secrétaire, etc. Vous savez, il y avait du monde autour, hein. Une trentaine de personnes, à peu près. Bon. Ben, l'intendant ne payait pas son séjour, ni sa femme. Bien. Mais il est sûr que par cette sorte de servilité que l'on a eue à cette époque-là et que l'on a toujours envers les grands, on essaie d'imiter les grands. Et il n'est pas douteux que peut-être la bourgeoisie montalbanaise, la bourgeoisie de Villefranche venait, à l'imitation de Monseigneur l'intendant, faire sa cure à Saint-Antonin. C'était donc un concours de peuple et ça favorisait le commerce saint-antonien. C'est incontestable. Voilà sans doute la seule ressource que la ville tirait à ce moment-là des eaux de Salette. Vous voyez que les eaux de Salette, c'est une vieille histoire, hein. On avait donc refait ce captage en 1710. À ce moment-là, comme aujourd'hui, l'hydrothérapie, ce n'est pas une chose nouvelle. Hein. Rappelez-vous, Madame Sévigné, le début du XVIIIe siècle est aussi une grande époque de soins thermaux. On fait des cures thermales. Et l'eau de Salette, fort heureusement, je précise aussi pour ceux qui m'écoutaient que Salette, ça ne s'écrit pas comme on l'écrit partout ici dans la commune sur les pancartes. Ça s'écrit S-A-L-E-T. Ça veut dire eau salée. Bon, excusez-moi. L'eau de Salée était particulièrement salutaire pour les intestins surmenés des grands de l'époque qui étaient de gros mangeurs, surtout des mangeurs de viande. Certaines années, on fera même porter à Monseigneur l'intendant, et d'urgence par l'express à cheval, deux pintes d'eau de Salette, parce qu'il était là-bas, à Villefranche. Il y était allé pour affaires administratives. Il se tordait de dysenterie et il a fait mander de l'eau de Salette. Vous voyez quelle gloire pour les Saint-Antoninois. Vous voyez bien que notre eau de Salette a des références et qu'elle est bien meilleure que les eaux de Sylvanès, dont Monsieur de Villette, le gouverneur de notre ville, un Saint-Antoninois, faisait une cure annuelle. Lui, il allait à Sylvanès. Quand même, là, il décriait ce que nous avions de bien. Et voilà. Tout ce monde vit à l'aise, prend les eaux, se nourrit bien, mais les autres, nous les verrons la prochaine fois.